La France vit à crédit depuis aujourd'hui, figurez-vous. 55 jours de l'année ne sont pas financés par les impôts et les charges que payent les Français, qui sont pourtant parmi les plus élevés du monde. La France, mauvais élève de l'Europe, mais est-ce que c'est si grave que ça? C'est la question.
Dans le reste de l'Europe. Oui. La catastrophe, pour l'instant, est minorée par les faibles taux d'intérêt avec lesquels nous empruntons, mais évidemment, ça casse un certain nombre d'idées reçues sur les politiques d'austérité qui seraient menées dans notre pays. Les dépenses publiques flambent.
Sans ça, on va continuer?
Je suis sûre que Nathalie Arthaud ne va pas pleurer sur les entreprises. J'ai comme un pressentiment, Nathalie Arthaud.
Évidemment non. Et en plus, moi, l'escroquerie, je la vois dans l'autre sens. Parce qu'en réalité, l'État va rendre 10 milliards hein, suite à retoquage de cette taxe exceptionnelle. C'est 10 milliards qu'il va rendre aux entreprises. Et il leur en demande que 5.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a 5 milliards qui seront payés.
Et les 5 autres, c'est nous qui allons les payer. Nous, les petits, les chômeurs, les retraités, ceux qui ont déjà pas de quoi à boucler les fins de mois. Donc moi, l'escroquerie, je la vois dans ce sens-là. En réalité, cette opération, elle sera neutre pour la plupart des grands groupes. Et quand Monsieur le maire parle de cette taxe, vous avez très bien compris qu'il s'agissait des très grandes entreprises, 300 entreprises. Chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros. On parle de 300 grands groupes, ouais. Et y compris la plupart. Pour la plupart, ce sera une opération neutre.
Mais c'est plutôt bien de demander cette taxe aux grandes entreprises.
Mais moi, je vais vous dire que je demanderai plus d'impôts encore aux grandes entreprises. Et toute la politique de ce gouvernement, c'est de les diminuer, ces impôts. Parce que quand même, il faut rappeler que c'est une opération qui va neutraliser... pour moitié, hein, encore, je le redis, une bourde qui a été faite par le gouvernement précédent. Bon, mais toute la politique de ce gouvernement consiste à baisser les impôts des plus riches, à baisser les impôts des plus gros groupes et à faire payer aux petites gens, aux plus pauvres, hein, finalement, ce qui manque dans les caisses de l'État. Donc moi, cette politique, je la dénonce. C'est une politique qui est favorable à la bourgeoisie et aux grands groupes.
C'est vrai, Claude Posternak, il y a 5 ans.
Donc pourtant, ça peut couvrir, nous. Tous les coûts.
Oui, mais
non, mais
ça,
on s'appauvrit. Mais attendez, si vous nous expliquez qu'il faut aller acheter en Chine parce que c'est moins cher, vous n'étonnez pas qu'on s'appauvrisse.
Mais la parole est à la défense.
Non, mais ce qu'on constate, c'est que plus on est riche, moins on paye d'impôts. Voilà. Plus on est riche, moins on paye d'impôts.
Quand on est dans les sphères très très hautes.
Oui, bien sûr, bien sûr. Y compris l'article du Monde soulignait que 0,01% des riches ne payent pas 30% de leurs impôts.
Mais c'est quoi être riche?
Non,
on parle des très très riches là.
Je parle des 0,0. Oui, des très très riches. Mais comme vous l'avez remarqué, y compris ces grandes entreprises, elles font l'économie. Elles sont plus puissantes que les États. De ces grands groupes capitalistes qui échappent à l'impôt pour 40% avec ces procédés divers et variés. Hein. Et puis, effectivement, on va en discuter longtemps, c'est comme le dopage. Hein, le dopage, il faut lutter contre le dopage. Puis finalement, il y a toujours une longueur d'avance, le dopage. Hein. C'est pareil, il se dope au profit. Donc, effectivement, c'est le sport national de la bourgeoisie et de ces grands groupes.
Il faut quand même rappeler un chiffre, Nathalie Arthaud, c'est que 1% des contribuables paient 40% de l'impôt et 10% des contribuables sur le revenu, 70%.
Mais l'impôt
On parle des moyens riches.
Je dois dire que cette discussion sur l'impôt sur le revenu, je pense que vraiment, c'est une façon de tromper tromper les gens, parce que on sait aujourd'hui l'impôt qui rapporte le plus à l'État, c'est la TVA. La TVA, y compris les taxes intérieures, sont supérieures à ce que rapporte l'impôt sur le revenu.
Vous êtes pour la suppression de l'impôt sur le revenu?
Non, je suis pour la suppression de la TVA, figurez-vous.
Ah d'accord. Ça m'étonnait un peu.
Parce que justement, la TVA, elle est payée par tout le monde, mais y compris par le SDF, quand il va acheter sa baguette de pain, quand il va acheter de quoi se vêtir.
Sauf que ce que vous dit Roselyne, c'est que l'impôt sur le revenu, il est déjà ultra concentré. Si on concentre encore plus...
L'impôt sur le revenu, c'est qu'une toute petite partie de l'impôt. Et je voudrais juste revenir sur autre chose aussi. Vous avez dit, Madame Polony, qu'on ne sait pas qui crée les richesses, où elles se créent. Si, moi, je sais où se créent les richesses et je sais qui les crée. Ce sont les travailleurs, ouvriers.
Il faut aussi une base de capital pour créer les richesses.
Les travailleurs.
Il faut les taxer.
Ceux qui mouillent leur chemise, ceux qui passent leur santé sur les chantiers, les chaînes de montage, il n'y a aucune richesse qui se crée.
Et on est d'accord, les travailleurs, et je pense qu'il faut mettre en place une forme de participation, une économie coopérative, bien sûr, pour associer davantage
plus que ça.
Moi, je ne vais pas faire comme si il n'y avait pas un capital de départ qui est tout de même nécessaire.
Mais ce capital de départ, depuis fort longtemps, moi je pense qu'il devrait être collectivisé. Il devrait appartenir à chacun, parce que ce capital, en réalité, mais je ne vais pas forcément développer là-dessus. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce sont les travailleurs qui sont au cœur de la production, y compris de ces grands groupes de Nike, d'Apple, de PSA, d'Assaut, qui est cité dans le scandale, de tous les travailleurs, les salariés, les comptables, les ingénieurs, ils sont au cœur de ces entreprises. Et bien moi, je pense qu'eux, ils pourraient très bien effectivement exercer ce contrôle que les États sont incapables de faire, que effectivement l'Union européenne est incapable, sur laquelle elle est incapable de se mettre d'accord, parce qu'en réalité, ils sont
incapables de se mettre d'accord sur la question des paradis fiscaux. Pourtant, Nathalie Arthaud,
on contrôle les uns les autres. On y arrivera pas comme ça.
Les paradis fiscaux,
les paradis fiscaux, les plus pauvres, ils puissent aller contrôler, ils puissent dire les richesses qui circulent, ils puissent dire où elles vont.
Vous n'avez pas eu une information, Nathalie Arthaud, visiblement, c'est que les paradis fiscaux, c'est terminé. Ça fait longtemps même que c'est terminé, depuis plusieurs années. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République de l'époque.
Oui, mais enfin là, c'est un peu différent.
Je voudrais juste poser une question à Nathalie Arthaud, parce que ça m'a tout à l'heure interpellée. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise bourgeoise ?
Une entreprise bourgeoise, je n'ai pas parlé d'entreprise bourgeoise, je parlais de la bourgeoisie cette fraction de la population qui possède des capitaux en quantité énorme et qui, effectivement, les investit dans tous ces grands groupes, y compris avec des investissements croisés. Ils savent même
des
fois.
C'est la base pour créer des entreprises.
Eh bien, moi, je pense, bien sûr, il faut de l'argent, il faut des moyens de production, il faut des salariés. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est que ceux qui travaillent, ceux qui passent leur vie, ceux qui laissent leur santé, ils ne s'enrichiront jamais. Alors, et ce qu'on voit, c'est qu'ils peuvent travailler le dimanche, ils peuvent travailler la nuit, ils ne sortent pas la tête de l'eau. C'est pas eux, effectivement, qui vont amasser du capital. Et puis on a des gens qui sont riches et qui peuvent dormir les deux oreilles bien tranquilles sur leur oreiller, et puis leur capital fructifie comme par miracle, parce que justement il y a des petites mains derrière qui font le boulot tous les jours. Donc moi, c'est ça que je conteste. Cette accumulation de capital, eh bien, je pense que c'est du vol. La résultante de l'exploitation du monde du travail.
Je pense que le communisme est une belle idée, ça marche pas. Alors on va oublier.
Le communisme est une belle idée, madame de Menton. Mais écoutez, je suis
chère Sophie,
heureuse de vous l'entendre dire.
Je ne suis pas pour le communisme. Je pense en effet que la collectivisation des moyens de production ne fonctionne pas. Je suis pour l'économie de marché, mais je ne confonds pas l'économie de marché avec le capitalisme financiarisé. Et le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'un capital non financiarisé ?
C'est toute la question.
La recommandation de Jean-Claude Juncker, est-ce que c'est si important que ça pour vous, les 3%?
Non, mais déjà, dire que ce sont les dépenses sociales qui posent un problème et qui créent le déficit de l'État français, je ne suis pas d'accord. Non, voilà.
Ça creuse le déficit. Après,
le manque à gagner du fait des exonérations fiscales qui sont décidées et qui sont empilées par les gouvernements les uns après les autres. Là, oui, ça crée. Et par ailleurs, quand on dit dépense sociale, pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un enrichissement. Quand on fait une éducation qui est c'est un enrichissement.
L'école publique, ce n'est pas de la dépense sociale.
L'éducation, c'est quand même le premier budget de l'État.
Dans les 15%, je ne parle pas de l'éducation.
Oui, je parle de l'éducation, je parle de la santé, je parle des transports en commun. Tout ça, ça fait partie
des riches. Nathalie, juste un mot sur l'éducation.
Je termine là-dessus. Je pense quand même que c'est ce que vous appelez les dépenses sociales, tout ce qui peut être organisé, un peu planifié.
Non, mais peu importe comment on accessible. L'appelle, il faut le payer, quoi. Voilà.
Au plus haut, pour moi, ça indique un degré de civilisation.
Sophie de Menton.
Voilà. Je me battrai effectivement pour qu'y compris les plus riches, qui en profitent.
Vous n'êtes pas toute seule à vous battre.
Ces dépenses sociales, qui sont supposées dépenses sociales, aider les gens pour leur confort de vie, pour l'éducation, pour la santé. Ça pourrait être infiniment mieux utilisé. Et Haïti, c'est un mouvement d'entrepreneurs, de patrons. Nous avons décidé de rebasser un petit peu quand même.
J'ai
des conseils pour expliquer aux patrons comment leur argent pourrait être utilisé.
La force de travail du capital.
On a fait la même chose et on s'est dit comment on pourrait mieux utiliser l'argent de l'État, nous qui sommes des entrepreneurs. Et donc on s'est mis autour de la table en disant, bon, il y a des contraintes, nous devons garder effectivement un pseudo-modèle social, en tout cas, dont une partie est bien. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et on a essayé de chercher comment, avec un regard entrepreneurial, on pouvait mettre ça au point. Et en fait, en France, nous avons un poids terrible, et je n'attaque pas du tout les fonctionnaires, qui sont très efficaces. Je pense que nous avons un poids de fonction publique et une inégalité devant le travail flagrante qui nous coûte très cher. À travail égal, salaire égal, les Français sont égaux devant le travail. Il n'y a pas de raison d'avoir des statuts particuliers en dehors des missions régaliennes. Ça coûte très cher. Alors, on a fait 9 réformes fondamentales. Il faut redonner de la liberté au pays. Et c'est vrai que ceux qui quittent le pays, les évasions viennent majoritairement des Français. Mais c'est pas tellement une question d'argent. Ils partent pour fuir une espèce de poids, de contrôle.
Beaucoup. Une question d'argent.
Pas les petits. Un petit restaurateur, un boulanger qui veut partir parce qu'il a envie de lancer son activité et qui part à Londres le faire.
Il y a beaucoup de jeunes talents qui s'en vont. Il y a une réalité. Simplement, deux commentaires sur deux chiffres. On parlait de l'éducation. Il y a quand même un problème entre la France et l'Allemagne, c'est que les profs en Allemagne, ils sont mieux payés qu'en France.
Oui. Regardons la comparaison.
Mais attendez. Simplement, on dépense, nous, 20 milliards de plus que l'Allemagne pour l'éducation. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Bon, donc ça, c'est une première réalité. La deuxième, je vais faire un commentaire sur le chiffre du miracle des 3%. C'est-à-dire, il faut atteindre les 3%. Je vous rappelle comment on a pensé les 3%, il ne faut pas l'oublier. Les 3% sont dus à un monsieur qui s'appelle Monsieur Abeille. Oui. Monsieur Abeille travaillait au Trésor. Oui. Un jour, il était appelé par François Mitterrand en 1981, parce que François Mitterrand dit « J'en ai marre de tous les ministres qui viennent m'embêter pour réclamer des rallonges budgétaires, trouver un truc pour les calmer ». Donc, ils vont en face, le café en face de l'Élysée, ils se réunissent et Abeille...
Il n'y a pas de café en face de l'Élysée.
Si, il y en a à gauche, bon, peu importe. Il y a un café à côté de l'Élysée. Ils se réunissent et là, sur un petit bout de table, ils décident, on prend quoi ? Bon, et ils décident qu'ils vont prendre un pourcentage du PIB. Et puis, ils vont voir Mitterrand en disant, voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est 3,2. Et Mitterrand leur répond, on va prendre 3%, c'est un chiffre net, ça fera plus sérieux. C'est ça qui, aujourd'hui, est dans la Constitution européenne. C'est-à-dire, il faut faire les 3%. Je vous rappelle quand même un petit détail. On parle de nos 3%. Aujourd'hui, les États-Unis sont à 7% de déficit et tout le monde s'en fout.
Et oui, mais parce que les Américains, ils ont le dollar aussi.
Et le Japon. Et oui. Ils ont une monnaie forte. Et le Japon a une dette qui s'élève à 200% de son PIB. Simplement,
elle est détenue par des Japonais.
Alors que nous, pendant 2 décennies, le Trésor, justement, a fait en sorte de confier la dette française au marché financier. Et donc, on se retrouve maintenant sous pression.
C'est un cycle à cadet, c'est une
bêtise sans nom.
Puisqu'on parle de l'étranger. Regardons ces pays donc, qui sont les bons élèves du point de vue de notre thème du jour. L'Allemagne donc, faut financer jusqu'au 7 janvier prochain. Ce sont des budgets excédentaires. Malte, alors, évidemment, c'est un peu spécial.
C'est un paradis fiscal.
La Suède...
Non, mais c'est une blagounette.
Sur la Suède.
Juste pour le fun, ça.
La Suède, le 20 janvier, vous le disiez tout à l'heure, Natacha, Allemagne, pays inégalitaire, sans doute. Pas la Suède.
Non, bien sûr. Mais après, il faut regarder en fonction de l'état de chaque économie. C'est-à-dire que la Suède n'a pas une économie comparable à la France. C'est pas les mêmes. C'est
non,
pas le même type
d'entreprise.
Mais la
Suède a connu le même genre de situation que la France,
avec
des déficits, du chômage, et elle s'est redressée.
Il ne s'agit pas de dire qu'on peut continuer à dépenser comme ça en trouvant que c'est
formidable. Mais savoir comment se redresser.
Il s'agit de savoir, en effet, surtout comment on recrée de l'emploi, qui est la première chose essentielle. La première. Donc recréer des filières industrielles, parce que la Suède, elle joue aussi sur le fait qu'elle a d'abord une formation, ce qu'on appelle la flexi-sécurité, c'est-à-dire ce système qui permet de ne pas laisser des chômeurs sur le carreau. Elle a ensuite des industries assez spécifiques. C'est pas du tout la même chose.
J'ai envie justement de parler du modèle suédois avec Nathalie Arthaud. Est-ce que pour vous, ce qui se passe en Suède, c'est quelque chose dont on peut tirer des enseignements et pourquoi pas des pratiques pour notre pays?
Non, mais je crois pas. Et c'est le mythe de la Suède, de la flexi-sécurité. Voilà, tout le monde est heureux, etc. Tout ça, c'est... Je crois pas. Je crois qu'il y a des spécificités. Mais moi, dans ce débat et sur cette question-là de l'excédent du déficit budgétaire, dans ce débat, comment utilise-t-on l'argent de l'État et puis les différents conseils
argent,
voilà, oui, d'accord. Mais justement... Ça, c'est la rengaine habituelle pour laisser entendre que finalement il y a le mammouth éducation nationale, il y a des dépenses, il y a des abus, il y a des privilégiés, ça s'appelle les fonctionnaires, il y a des une sorte de gabegie publique, etc. Mais moi je vous pose une question que jamais personne ne pose, comment pourrait-on mieux utiliser les super profits, justement, de ces 300 grands groupes. Utiliser les profits. Mais, en France,
l'un n'empêche pas l'autre, Nathalie Arthaud.
Cette question-là, jamais personne ne se la pose.
On n'arrête pas de la poser. On en parle depuis une heure.
Il y a 500, les plus riches, les 500 plus riches en France possèdent, contrôlent 460 milliards. C'est-à-dire l'équivalent du budget de l'État. 460 milliards. Alors, ces grands groupes, y compris, regardez, on parlait de Bruno Le Maire, expliquait qu'il y avait une quinzaine de groupes qui faisaient plus de 13 milliards de chiffre d'affaires en France.
Mais tant mieux.
Non, mais très bien, mais ce chiffre d'affaires, ces profits, eh bien moi je vous dis qu'il
les réinvestit.
On doit les concevoir.
On aimerait bien.
Justement, ces profits, on doit les concevoir comme un bien. Pour moi, ces profits, ce sont aussi un bien collectif. C'est aussi notre argent. C'est le résultat de nos efforts collectifs. C'est le résultat, voilà, de l'ensemble du labeur.
Et si, Nathalie Arthaud, physique, ces gens-là.
Et attendez, c'est le résultat. Donc cet argent-là, oui, on devrait avoir un contrôle dessus. Et je peux vous dire que si, ne serait-ce que la moitié de ces profits-là étaient réinvestis, utilisés en embauche, eh bien oui, on pourrait combattre.
Ce serait plus des grands groupes.
Le chômage. Mais... Vous savez, rien que les 40 milliards du CICE, enfin, et du pacte de responsabilité, les 20 milliards du CICE, puis les 40 milliards du pacte de responsabilité, c'est 1 million d'emplois.
Oui, mais on reste quand même le pays le plus taxé d'Europe.
C'est 40 milliards, ils sont distribués en dividendes.
On ne peut pas dire qu'on fait des cadeaux aux entreprises.
Ça dépend desquelles. Oui. Bah, bien encore une fois,
non,
on
mais voilà, mais justement, on n'échappe pas
à ça. Pas de cadeaux aux petites entreprises. En revanche, l'ensemble du système qui permet la libre circulation des capitaux dans un contexte comme celui de l'Union européenne fait des cadeaux à certains groupes. C'est-à-dire qu'on mêle à la fois le dumping fiscal et le dumping social. Et c'est tout le problème de la façon dont s'est construite cette Union européenne. Et il faut aujourd'hui ramer pour essayer de revenir là-dessus et de reconstruire des barrières, tout simplement.
Mais je vous rassure, Pierre Moscovici a dit qu'ils s'emparaient du sujet ce
matin. Et Jean-Claude Juncker aussi.
Ils sont en train de screener, c'est l'expression de Pierre Moscovici, ils sont en train de screener les pays pour savoir exactement qui sont les bons, qui sont les méchants. Ça screen beaucoup à Bruxelles.
Ça me fait pas rire parce que tout ça, c'est de la comédie, effectivement. Et dans deux
mondiale,
ans, on va avoir à nouveau un scandale. Et on va encore constater que les plus riches sont plus riches, que l'évasion, elle est encore plus élevée. Et que, effectivement, Rihanna Plaza, les petites ouvrières du Bangladesh, elles se font surexploiter, qu'elles en meurent, etc. Que c'est des assassinats, y compris. On va découvrir ça. C'est sans cesse la même. Et on va nous dire, mais oui, mais il faut attendre, peut-être qu'ils vont réguler. Non, ils ne vont pas
réguler. Il faudra parler tous les jours pour que les gens qui achètent les t-shirts en se disant « Oh, c'est pas cher », sache qu'ils ont, à un moment donné, des morts sur la conscience.
Allez, la réalité sociale des différents pays, et notamment de la France, on l'évoquera également dans la seconde partie autour de la question du travail le dimanche. Débat sans fin, sauf que maintenant, on a des chiffres, un premier bilan, 2 ans après la mise en place de la loi, ce sera l'un des sujets. Et puis, que faire des adolescents terroristes qui menacent de le devenir? Question là aussi, évidemment, très importante, dont on reparle dans le journal dans lequel il sera question, justement, d'ailleurs, de projets de terrorisme avec Julien Domel. Souvent un problème d'autorité parentale dans ces familles. Ouais. Nathalie Arthaud. Bah oui, c'est compliqué, mais c'est un problème auquel il va bien falloir s'attaquer.
Oui, évidemment. Et il y a des mesures de bon sens. Bon, cette surveillance, cet accompagnement de ces jeunes, essayer de les raccrocher à la société, finalement, parce que là, ces processus, ils sont tous très différents, quand on regarde les jeunes, leur histoire.
Mais en passant par la case prison.
Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une rupture avec la société. Il y a un isolement, qu'ils soient comme ça, retournés et pris d'un fanatisme, avoir envie de retourner vivre comme au Moyen-Âge, enfin bon, dans une barbarie, ça nous interroge tous. Alors, c'est bon, bien sûr qu'il y a des mesures de bon sens qu'il faut essayer de prendre maintenant.
La prison.
On voit très bien. D'ailleurs, ces jeunes, ils ont été condamnés effectivement à de la prison, mais ils
n'ont pas. Alors, il y en a un qui est réellement en prison, et il y en a deux qui sont dans un centre spécialisé, maison de redressement. Oui.
On sait très bien que la prison, c'est un des premiers lieux de radicalisation en France. Bon, je ne crois pas que ce soit effectivement la bonne solution. Bon, maintenant. Plus largement, moi je crois que là on se pose une série de questions. Bien sûr, il faut gérer la catastrophe en quelque sorte, mais c'est du colmatage. C'est en aucun cas une lutte véritable contre ce fléau qui est le terrorisme. Moi je crois que si on veut, et le problème c'est ça, c'est on ne va pas non plus s'habituer Hein, comme on s'est habitué à vivre avec un chômage de masse, avec une misère qui s'aggrave, avec des gens qui n'arrivent pas à vivre, on ne va pas en plus s'habituer à cette menace. Nathalie Arthaud, effectivement, il faut le combattre.
Est-ce que votre propos veut dire que vous retenez ce qu'on a appelé l'excuse sociale du terrorisme?
Ah non, je ne suis pas en train de...
D'accord, je voulais être tout à fait au clair avec vous.
Je
ne
suis pas en train de dire ça, mais je pense quand même que... Ah d'abord, ce que je voulais dire, c'est que la lutte contre le terrorisme qui est, déployée par tous les dirigeants des grands États, ne peut pas éradiquer le terrorisme, parce que cette lutte contre le terrorisme qui consiste à aggraver des guerres, à nouer des alliances, y compris avec des soutiens des différents groupes terroristes.
Mais c'est d'accord, mais ici, les cas concrets, comment on les traite avec ces gamins qui sont sur Telegram à dire on veut faire des attentats?
Vous êtes d'accord qu'il y a quand même un lien, hein? Il y a quand même un lien, sûr. C'est que moi je crois que fondamentalement, la politique des grandes puissances, elle met de l'huile sur le feu et elle finalement aggrave la situation. Donc moi, j'ai aucune solidarité avec ces bombardements qui ont lieu, avec ces guerres qui ont lieu. Et puis, il y a une politique de domination des grandes puissances.
Bombarder Daesh, vous n'êtes pas d'accord ?
Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord pour bombarder Raqqa, pour bombarder Mossoul, pour bombarder ces villes où il y a des milliers, des dizaines de milliers de civils qui sont morts,
oui, enfin,
des
hôpitaux... Revenons à la question posée.
Ensuite, ici...
On a des jeunes qui sont en état d'isolement. Sophie de Menton le disait très bien, c'est une période de fragilité. Ils vont vers le terrorisme aujourd'hui. Ce terrorisme-là, ils iront peut-être vers une autre forme de terrorisme ou d'extrémisme demain. La question est de savoir.
Nathalie Arthaud, c'est bonne idée.
Moi, je crois que tout ça, ce sont des pis-allers. Enfin, on a un pays très répressif, très Israël. Qui a...
Formidable.
Et il n'empêche pas les attentats.
Il n'y a pratiquement plus d'attentats en Israël.
Régulièrement, y compris avec des moyens.
Parce qu'il y a des murs et parce qu'il y a eu des
Donc moi, je pense qu'il faut prendre. Non, il n'y aura pas de solution simple. Moi, je suis désolée de le dire, mais pour combattre, éradiquer le terrorisme et puis faire que ces jeunes ne soient pas attirés par ce genre, il faut changer la société. Oui, parce que ce que je pense, c'est qu'on est dans une société qui marginalise, qui isole, qui nous met en concurrence les uns avec les autres
en
permanence.
C'est la faute de la société. Non, mais c'est l'excuse sociale dont on parlait tout à l'heure.
Non, c'est pas l'excuse sociale. C'est que il y a des processus dans la société qui conduisent au repli, qui conduisent à ce que chacun intègre l'idée qu'on est en guerre les uns contre les autres. Il y a du racisme, il y a tout ça. Et sur cette base-là, oui, c'est très facile de retourner. Enfin, c'est facile. En tout cas, ça se fait de retourner des jeunes, de s'appuyer sur leur fragilité, sur leur quête. Et moi, ce que je crois, il faut effectivement une société qui soit plus égalitaire, où il n'y ait pas ces rapports, et où il n'y ait pas de ce chômage, où il n'y ait pas cette marginalisation, et où il y ait un idéal collectif. Parce qu'il n'y a plus d'idéal collectif dans la société, il n'y a même plus d'utopie.
Ouais. Hein, Nathalie,
quel que soit le système social.
Besoin d'exemples, etc. La fierté d'appartenance. Ils avaient les prix Nobel israéliens affichés dans les couloirs. La fierté en Israël...
Est-ce qu'il y a aussi des Arabes israéliens dans ces écoles?
Oui, c'est ça. Parce que la fierté d'appartenance, elle existe aussi du côté des Palestiniens, voulez. Et c'est justement cette révolte qui est à la source.
Les Palestiniens, ils viennent travailler en Israël. Ils sont prêts à donner un couteau dans le dos, évidemment, parce que on est bien d'accord.
Israël est une puissance
israélo-palestinien.
On pourra en reparler. Moi, je suis en France.
Juste sur les jeunes.
Reconnaissez cette fierté aussi aux Palestiniens qui se battent pour avoir un État.
Je suis en France.
Je parle des jeunes. Voilà. Je parle des jeunes et la façon dont ils gèrent leurs jeunes est exceptionnelle, avec une jeunesse heureuse, compétitive, mais qui a envie d'arriver, etc.
Je suppose bien qu'il doit y avoir aussi des jeunes un peu dans les soucis en Israël et qui sont dans des démarches de révolte. J'espère pour eux.
Sur les jeunes, c'est assez exemplaire. Il y a quelqu'un qui nous dit sur Twitter que ces jeunes, ces milliers de jeunes, ce sont des bombes à retardement. Voilà, c'est son expression. Oui. Et c'est une expression qui nous est donnée sur Twitter. La voici, les adolescents ayant baigné dans la haine du returnees, hein, ceux qui reviennent.
C'est ça. Daesh a dit très clairement que les jeunes et les jeunes mineurs étaient une de leurs cibles désignées parce qu'ils constituaient en quelque sorte une zone de fragilité dans les sociétés occidentales. Donc c'est un sujet qui ne va pas disparaître par une petite mesure ou des emprisonnements.
C'est ça qu'il faut créer. Vous voyez, quand vous dites, j'espère qu'ils sont des jeunes qui sont révoltés par rapport à la société, mais justement, y compris ces jeunes qui sont fragilités, qui sont en rupture avec la société, au moins avec la société française, avec l'État français, etc. Pourquoi regardent-ils de ce côté-là ? Pourquoi ? Ben parce que je crois qu'il n'y a plus de projet collectif dans la société, qu'il n'y a plus
d'envie de construire une société. C'est votre faillite d'abord. C'est la faillite du marxisme dans la société, malheureusement.
Je milite justement là, en l'occurrence sur ce plateau, pour dire que oui, il y a une autre société que cette société capitaliste qui domine, qui pourra faire de la place à tous, qui n'écrasera pas des peuples entiers, des pays entiers, qui les pillera pas, qui sera pas,
qui les mettra au goulag,
impuissante comme les notre société capitaliste, d'éradiquer la faim dans le monde, par exemple.
Parce qu'il y a un problème à régler aujourd'hui, Nathalie Arthaud, avant de changer complètement la société, d'arriver dans le bon sens, on entend bien les mesures. Est-ce qu'on a éliminé la criminalité?
Est-ce qu'on a
pourtant il n'y avait pas de délinquance à l'époque des pays communistes, etc. On va pas refaire le débat du communisme ici.
Non, mais on a vu que la société que je défends communiste, elle n'a jamais existé.
L'anniversaire de la révolution d'octobre, c'était du bout des doigts.
Les mesures dont a parlé
François Molins, Claude Posternak, il a eu cette expression, des mesures judiciaires. On sent bien que la justice, elle, avec les mots, avec les termes, on est un peu, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Il n'y a pas encore de mesures spécifiques, et on le sent bien ici, concrètes, qui est expérimentée, même à l'étranger d'ailleurs.
Mais ça, c'est clair qu'il n'y a pas de recette magique. Et on parle de la France. Hier, il y avait un très bon papier dans Afrique.com sur le même sujet à Dakar. C'est-à-dire à Dakar, on voit des radicalisations de jeunes vers l'État islamique. Bon, il y a des considérations, on ne peut pas les nier, qui sont des considérations sociales, d'intégration, etc. Il y a une réalité. Donc, il faut avancer sur deux jambes. Un, bien sûr, Nathalie Arthaud, je suis d'accord avec vous, améliorons cette société qui est une société dure, ok. Mais à côté de ça, il faut des réponses qui soient des réponses concrètes. Je pense qu'on va avancer en tâtonnant. Il n'y a pas de recette miracle. Et tâtonner, ça veut dire... faire des expérimentations et voir, là ça marche, on continue, là ça marche pas, on arrête. Il n'y a pas de recette miracle.
C'est-à-dire qu'il faut quand même développer dans notre pays, et c'était le sens de l'ordonnance de 45, d'avoir une démarche de plus éducative que répressive. Et il faut reconnaître que dans notre arsenal judiciaire, cette démarche de prévention, d'éducation, elle n'existe quasiment pas.
Mais parce qu'il y avait trois zones d'intégration dans le pacte social de la libération. Ces trois zones d'intégration, c'était l'école, l'armée et le travail. C'est les trois zones d'intégration. Le travail, vous avez des banlieues où il y a 45% de chômeurs.
Bien sûr.
L'armée n'est plus là. L'école, on voit la crise de l'école telle qu'elle est. Donc c'est sûr que c'est avancer sur deux pieds. Premier pied, comment on repense l'ensemble de la société. Mais surtout, deuxième pied, comment on essaye d'apporter par l'expérimentation des réponses concrètes.
Dans deux mois, parce que je suis d'accord, entièrement d'accord. Mais là, pour l'instant, on en a trois, on en aura 15, on en aura 50. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait? Moi, je crois que déjà, il faut absolument ne pas les mélanger avec d'autres gens, c'est la base.
Il faut les mettre dans des centres spécialisés qu'ils n'ont pas
absolument. Il faut leur apprendre des choses qui les passionnent ou qui les intéressent. Donc il faut continuer à les éduquer, parce que l'éducation est très importante. C'était pas des... Ils doivent être...
Non mais vous pensez sincèrement que vous mettez 10 ados qui viennent avec une même idéologie, qui vont changer, ces 10 ados vont changer d'idéologie, alors que s'il y en a qui commence à changer, il va se retrouver culpabilisé par les autres. Ça me paraît vraiment très difficile.
Allez, mais qu'est-ce qu'on en fait alors? On les met où?
C'est justement tout le problème.
Moi, je dis qu'il faut les mettre dans
les gueules. C'est sûr qu'on verra moins la famille.
Nathalie Arthaud, j'imagine que vous n'êtes pas fan du travail le dimanche. Est-ce que ces chiffres donnés par le gouvernement vous font un petit peu quand même changer d'avis ou pas du tout?
Non, moi je suis contre effectivement la généralisation du travail du dimanche. Ce qui va se passer, effectivement, quand on compare avec d'autres pays, c'est que le dimanche va devenir un jour comme un autre. Ils seront plus payés à 200% là où ils ont obtenu 200%, ce qui n'est pas le cas de partout. Et c'est toujours la même idée, c'est que les salariés hein, doivent être finalement malléables et corvéables, merci, doivent être disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que ça doit être la priorité, on va bosser, etc. Donc moi, je suis contre ça. Et je sais bien
c'est
que...
C'est la philosophie générale, quoi.
Mais bien sûr.
Quels que soient les chiffres.
Mais parce que les salariés n'ont pas le choix. Vous dites qu'il y a des accords. Ils ont, alors, premièrement,
ils ont
en fait,
le choix.
Un certain, beaucoup acceptent d'aller travailler le dimanche parce que, justement, ils ont des salaires tellement minables, parce que regardez les salaires qu'il y a chez Sephora, regardez les salaires qu'il y a dans tous ces commerces, regardez les employés, mais c'est à coup de lance-pierre qu'ils sont payés. Donc, évidemment... 200%, eh ben on fait ce petit sacrifice. Voilà. Donc, le problème, c'est ça, c'est que beaucoup de salariés, ils sont contraints par la force des choses, du fait, voilà. Et puis, mais... par ailleurs, l'accord d'entreprise, ça me permet de discuter d'une chose aussi. Moi, je n'y crois pas, à cet accord d'entreprise et à cette discussion d'égal à égal dans l'entreprise, où finalement, le salarié va pouvoir décider, comme le patron, et puis discuter tranquillement, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, ce n'est pas vrai, c'est une escroquerie. Regardez ce qui s'est passé avec le harcèlement sexuel, hein, à Hollywood, une des grandes entreprises du monde, etc. De quoi parle-t-on là? Bon, on parle de rapport de domination. On parle de rapport de pouvoir. Non, attendez, non mais je termine, c'est un petit peu compliqué peut-être mon raisonnement, mais je vais quand même l'expliquer. C'est que justement dans les entreprises, non mais vous dites que je mélange tout. Non, dans les entreprises, il y a des rapports de domination, des rapports de domination à tel point que les femmes, elles acceptent effectivement et elles se retrouvent coincées pour un tas de choses, y compris sur le plan du harcèlement. Eh ben je peux vous dire quand on est une caissière et qu'il faut revendiquer d'être payé pour ses heures sup, d'avoir son jour de repos. Eh ben c'est aussi difficile.
Il faut coucher, c'est
donc,
ça.
Non, mais c'est aussi difficile parce qu'il y a des rapports de domination.
Oui,
parce qu'il
n'y
a pas de rapport d'égalité dans les entreprises.
C'est vrai, mais c'est le monde. Le monde est monde. Il y a des rapports de domination. On peut...
Il faut qu'ils soient encore... Dites-nous le rapport direct avec l'ouverture le dimanche.
C'est ce décalage. C'est-à-dire que le discours de Nathalie Arthaud est un discours qui ne fonctionne plus aujourd'hui parce que les Français ont envie de se prendre en main. Il y a un désir de ce qu'on appelle l'autonomie. Et que l'avant-garde proposé par le trotskiste de façon large, c'est-à-dire nous sommes l'avant-garde, c'est-à-dire on pense pour vous, on est en avance, on pense pour vous, bon travailleur, pour votre bien, ça ne fonctionne plus. Et le dimanche, c'est symptomatique, c'est-à-dire que vous êtes dans une société, et je suis tout à fait d'accord avec vous, chère Roselyne, c'est quand même dingue que des laïcs marxistes défendent le dimanche.
Roselyne, il y a un vrai sujet, c'est que moi je suis tellement d'accord là-dessus qu'il faudrait comprendre aussi pourquoi le jeudi de l'Ascension est férié, le lundi de Pentecôte, pourquoi on a autant de jours catholiques dans un pays. Les ponts, moi le patron que je suis n'apprécie pas forcément les ponts, mais au-delà de ça, je trouve aberrant et injuste.
Qu'il faut diminuer les jours de congé, mais qu'ils soient évidemment organisés d'une manière
différente.
Respectueuse des croyances, différentes, et respectueuse des nouveaux modes de vie.
Moi, je suis pour plus de jours fériés, effectivement. Mais juste une chose.
Moi, j'en veux moins.
Une chose, c'est pas parce qu'il y a un faible taux de syndicalisation que les combats menés par les syndicats. Alors, moi, je suis. Je parle pas pour ma paroisse directement.
Hein. Paroisse, attention aux mots.
Oui.
Voilà.
C'est pas pour autant que ça ne représente pas. Non, l'opinion de l'ensemble du monde du travail. Je suis désolée parce que sur les derniers combats qui ont été menés par les syndicats, que ce soit le combat contre la loi El Khomri, que ce soit le combat contre les ordonnances Macron,
comment voulez-vous qu'il y ait un effet miroir? C'est-à-dire que moi, en tant que travailleur, je me reconnaisse dans deux patrons qui sont les principaux patrons des syndicats, qui sont permanents syndicaux depuis 1986. C'est-à-dire que ce qu'a changé dans la politique avec Macron, c'est je suis dans la vraie vie, je fais de la politique et je retourne à la vraie vie. Bon, en tous les cas, c'est la volonté. Je pense qu'au niveau du syndicalisme, c'est la même chose. Je suis dans la vie de l'entreprise, je défends les travailleurs, je retourne dans la vie de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les deux patrons de FO et de la CGT sont permanents depuis 1986. Comment voulez-vous que je me reconnaisse, moi, en tant que travailleur, dans cette représentation? C'est plus possible. Donc, il faut s'interroger, c'est comment nous retravaillons une représentation sociale. Et ça rentre, le débat du dimanche le prouve, c'est-à-dire que globalement, lorsqu'on interroge les ouvriers en direct, ils s'exemptent du représentation syndicale.
Le référendum d'entreprise qu'a fait Macron.
Ce n'est pas vrai. Et je redis que les combats qui ont été menés, qui ont été portés justement par une fraction du monde du travail au travers des syndicats, en particulier de la CGT, eh bien, représentaient la majorité de l'opinion ouvrière du monde du travail. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous ne vous sentez pas représenté. Mais je peux vous dire que beaucoup de salariés se sont reconnus dans ces manifestations parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire.
Dans les manifestations, mais pas dans les syndicats.
Ils se sont reconnus dans les mots d'ordre parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire, les accords d'entreprise. Parce que des accords de compétitivité, ça fait des années qu'ils en signent. Et ces accords de compétitivité, c'est baisse de salaire, augmentation du temps de travail, augmentation des cadences. Ils savent que c'est ça et ils sont contre.
Les coups de café ne peuvent tout simplement pas ouvrir le dimanche
parce
car ils n'ont pas de moyens de payer double.
Et voilà.
Ça donne encore l'avantage au gros parce qu'effectivement, y compris ce travail.
C'est vous qui voulez faire payer le double.
Ça donne encore l'avantage aux plus gros, aux plus grosses entreprises. Parce que c'est toujours, on est dans une concurrence effrénée. Hein. Le capitalisme, c'est ça. De toute façon, c'est la concurrence. Tout à l'heure, vous avez compris, souligné le commerce en ligne.
C'est la nature humaine, la concurrence.
Hein. Moi, je ne crois pas. Je ne crois absolument pas. D'ailleurs, dites-moi quel est le gène. On l'a peut-être identifié sur.
C'est un gène de survie.
C'est un gène de survie.
Absolument, c'est
les gènes. Elle n'a survécu que parce qu'elle était soudée. Sinon, elle n'aurait. Et sinon, elle n'aurait pas
survécu. Il y a un gars dans la caverne qui a tapé sur
moi. Le capitalisme, oui, mais en concurrence. Et c'est la jungle, une jungle où c'est toujours les gros qui mangent les petits. Et le travail du dimanche va encore gêner, va encore.
Allez, juste un mot sur le dimanche matin. Il y a un événement qui s'est passé.